les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Tout un programme aujourd'hui pour notre dossier du jour, avec une fiction encensée par les critiques mais largement boudée par le grand public. Dès le pilote, l'audience a chuté et les réclamations ont inondé la chaîne, à savoir la Fox. Seulement 4 épisodes seront mis à l'antenne. Canal Jimmy est la première chaîne à avoir diffusé la série dans son intégralité. On ne peut s'empêcher de penser qu'Alain Carazé a permis que la fiction obtienne la reconnaissance qu'elle méritait. On parle bien évidemment aujourd'hui de Profit, une série créée par David Greenwalt et John McNamara, une courte série de seulement 8 épisodes, Sarah.
En effet, d'ailleurs, on peut se dire que Alain Carazé est aussi très présent dans l'édition DVD, qui est probablement c'est une des personnes, une des chevilles ouvrières qui a fait qu'il existe un coffret qui est d'ailleurs très très bien fait, qui prouve que le DVD peut être un support très intéressant et très utile et qui permet de revenir sur des choses qui sont peut-être passées un peu vite à la télévision, donc je tenais aussi à le souligner. C'est une série qui ne date pas d'hier, hein, l'air de rien, 96, ça paraît proche, mais quand on voit les images et tout, on se dit que la télévision a quand même fait du chemin depuis ce moment-là. J'ai même failli au début la classer dans les années 80, fin 80, pas sympa, hein, pas
non.
Sympa. La série débute avec le plan d'une ville et ses gratte-ciels américains côte ouest habituels. On passe ensuite dans un appartement impeccable, très mode, très design, avec une bibliothèque où on distingue deux livres, Triomphe et Tragédie et Manger sain, vivre longtemps. Et d'ailleurs justement l'homme qui est nu d'ailleurs et qu'on croise mange sainement puisqu'il a un petit déjeuner composé de fruits. Et il nous déclare tout de go que Wayne Grisham est mort. Ok.
Et il nous parle à la caméra.
Oui, il
c'est
s'adresse directement. Oui, voilà, c'est assez bizarre. Ça fait un peu Magnum de temps en temps, hein, tu vois. Sauf que lui, il a absolument aucune expression sur le visage. Cet homme s'appelle en fait Jim Profit. Et il va donc succéder à Wayne au poste de directeur général adjoint aux acquisitions de la société Grayson & Grayson. On peut donc comprendre que Jim est un cadre ambitieux et qui réussit. Et d'ailleurs, pas toujours grâce à des moyens totalement légaux. Son credo doit être la fin justifie les moyens. Je me demande même s'il ne le dit pas un moment dans la série.
Et on se rendra d'ailleurs compte assez rapidement qu'il n'est pas pour rien dans la mort de la personne qui va remplacer.
Non, en effet, j'allais dire les moyens sont vraiment parfois assez bizarres, genre corruption, manipulation, meurtre, chantage, tout est bon pour lui pour arriver à ses fins. C'est donc un anti-héros total, même si on rit très souvent évidemment parce que il a aussi beaucoup d'humour et que on rit aux dépens de ses collègues, mais on rit parfois jaune, parce qu'il faut avouer qu'il a quand même des perversions qui vont très loin. Déjà, le fait que certaines de ses intrigues touchent des innocents, ça titille un peu notre conscience de téléspectateur, mais il est aussi complètement anti-moral. Il couche avec sa mère, en fait c'est sa belle-mère, mais sur le coup on ne le sait pas puisqu'il appelle maman ou mère, je ne sais plus très bien. Bon, on apprend après que c'est sa belle-mère, mais l'idée d'inceste est quand même là et est très bien perçue par le téléspectateur. Il tue son père, et tout ça dans le pilote. C'est donc un vrai personnage dénué de tout sens moral, avec aussi quelques faculté assez étonnante. Il manque de se faire écraser, il bouge pas d'un poil. Il n'a aucune émotion lisible sur son visage, même quand il s'enfonce un clou dans le pied, parce que parfois, les circonstances font que tu dois t'enfoncer un clou dans le pied.
Je peux comprendre, quand ça m'arrive...
Et lui, il sourcille pas du tout, même pas mal, tu vois. Et Alain Carazé, d'ailleurs, justement, dit que bien plus qu'un arriviste, ce type est un véritable psychopathe, et je pense que la phrase lui colle tout à fait bien. Maintenant, il faut savoir que le crime n'est pas reposant, un peu comme Vic Mackey, un autre anti-héros notoire. Il vit toujours sur la brèche et il faut toujours qu'il arrive à se couvrir d'une manière ou d'une autre parce que évidemment on lui cherche un peu des noises et on cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, la différence avec Vic Mackey, c'est qu'il est totalement seul. Pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants, pas de femme, pas de strike team. En fait, il se révèle très vite incapable de tisser des liens avec qui que ce soit.
Seuls liens qu'il réussit à tisser, finalement, c'est pour arriver à ses ambitions.
Voilà, donc
et utiliser les gens.
Voilà, il instrumentalise donc ces liens. Il utilise, comme tu dis si bien, d'abord sa secrétaire, par exemple, avec qui il a des rapports peut-être les plus humains, mais en fait, elle lui donne des informations et elle l'aide dans ses manipulations. Avec sa belle-mère, qui s'appelle Bobby, en fait, elle aussi, il aide petit à petit à rentrer dans le conseil d'administration, on va dire.
Mais il doit toujours avoir un retour.
Voilà. Et le sexe fait partie de la monnaie d'échange, notamment avec sa belle-mère. on en vient presque à penser qu'il n'est pas vraiment humain, ce mec. Il est trop déterminé, trop monobloc, trop insensible pour être vrai. Et vous allez voir que tout ceci a une explication. Et je vous propose en fait de l'écouter dans un extrait. Jim fait partie du conseil d'administration maintenant de Grayson & Grayson. Il doit faire face donc aux autres directeurs, y compris ceux qui portent le nom, parce que c'est une entreprise familiale. Il doit faire face notamment à Jack et Joanne. Joanne, c'est la chef de la sécurité intérieure et elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Et Jack, il n'aime pas trop non plus Jim. Donc ils ont fait une enquête sur lui et ils ont découvert quelques petites choses. Et vous allez voir, là c'est Jack qui explique à Joanne ce qu'il a découvert sur le passé de Jim Profit.
Je suis retourné 10 ans en arrière. Dans toute la presse parue à Tulsa, il n'y a aucune trace d'une Roberta Monroe ou d'une Bobby Stokowski.
Alors remonte à 15 ans.
On y va. On va remonter à 15 ans. Stokowski, Roberta, toutes les publications en Oklahoma de 78 à 83. J'ignorais que le métier de flic était si excitant. Oh mon Dieu.
Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ?
Eh bien, cette Roberta Stokowski a un passé intéressant et bien chargé, on dirait. Elle a été la seconde femme d'un certain Arnold Stokowski. Il avait un fils d'un précédent mariage.
Il y a 13 ans, il a attaché son père dans son lit et puis il a mis le feu au lit.
Qu'est-ce qui pourrait pousser un môme à faire un truc pareil à son père ?
Shérif Crew, vous nous entendez ?
Bien sûr, mademoiselle Metzer. Mais c'est inutile de m'appeler shérif. Je suis à la retraite depuis plus de 10 ans.
Merci d'avoir regardé le matériel qu'on a faxé. Avez-vous quelque chose à en dire ?
Eh bien, Arnold Stokowski n'était pas ce qu'on appelle un père attentionné. Je ne peux pas dire qu'il méritait quand même de brûler comme une torche, non. Le môme en question a vraiment vécu l'enfer avec lui.
Eh bien, on est plus intéressé par ce que vous savez à propos de Bobby.
Ils habitaient très loin.
Dans un trou perdu. Le môme n'a jamais été à l'école. Il n'avait pas d'amis. On entendait des histoires étranges sur la façon dont Stokowski l'avait traité après sa première fugue.
En fait, on est plus...
Mais quel genre d'histoire ?
Eh bien, Stokowski
avait un bon vieux ranch, mais c'était un radin de première. Il ne voulait aucune aide. Il avait ce bébé sur les bras, alors il l'a mis dans une grosse boîte mobile ébranlante. Il lui jetait de la bouffe et il le nettoyait une fois par semaine, comme il le faisait pour ses chevaux et ses vaches. Seulement, le môme avait autre chose. Il avait fait un trou dans sa boîte et il pouvait regarder la télé. Jour et nuit. Élevé par une télé. Non, mais vous imaginez ça. Et ça ne s'est pas vraiment amélioré quand Bobby est arrivé. Une fois, ça devait être un an et demi avant l'incendie, j'ai reçu un appel du grand hôpital. Stokowski Junior, Jimmy, était là. On lui recousait la main.
Que s'était-il passé ?
Stokowski avait bu. Il a coincé le môme, pris un couteau et il a gravé une croix sur sa main.
Une croix ?
Il a dit au môme qu'il n'avait pas de religion.
Quelle main ?
Quelle main ?
Et où était la coupure ?
Eh bien, en plein sur le dos de la main droite. Une grosse croix profonde et sanguinolente.
C'est ça que Bobby sait sur lui. Le môme qui a fait brûler son père. C'est Jim Profit.
Mais où est-ce que le créateur a été chercher une idée pareille ? Un gosse qui vit dans une boîte.
Mais tu te souviens le mot psychopathe lâché par Alain Carazé ? En fait, il a lu le livre de Robert Hessler, qui était un profileur du FBI, Weaver Fights Monsters, où il raconte qu'un des serial killers qu'il a étudié a vécu les deux premières années de sa vie dans une boîte en carton, avec une ouverture qui donnait sur la télé et ses parents qui lui jetaient de la nourriture. Donc c'est une histoire vraie.
Ah,
donc,
c'est effrayant quand même.
Jim Profit est réellement un psychopathe. Et d'ailleurs, il dort tous les soirs dans sa caisse. On le voit à la fin de chaque épisode, prendre une position fœtale et se coucher dans cette caisse.
Il quitte son appartement cosy, il pousse une porte derrière un aquarium où il a son ordinateur d'un côté et la boîte de l'autre.
Ouais, et donc ce bel appartement qu'on a vu à l'ouverture de la série, magnifique avec le jardin japonais, tout ça, en fait, a une pièce secrète qui est loin d'être parfaite, hein, parce qu'en plus il y a plein de nourriture par terre, des déchets et tout. Donc montre que Jim Profit a en effet, derrière la façade, on est face à quelque chose de très laid quand même. Alors, Adrian Pasdar, il faut dire, c'est l'acteur qui joue Jim Profit. On l'a vu aussi dans Top Gun notamment et dans Mysterious Ways, une série télé. Le joue super bien. Et en fait, il explique dans un des documentaires sur le DVD qu'il fallait le jouer sans le jouer. Et c'est vraiment ça, puisqu'il n'a pas d'expression. Et David Greenwald dit que, heureusement, qu'il n'a pas caricaturé le méchant. C'est tout à fait vrai.
Donc concrètement, il y a deux questions à se poser. Est-ce que Adrian Pasdar joue très bien ou est-ce que, en temps normal, il joue très mal et que dans la série, ben, ça tombe bien ?
Alors, je ne vous propose propose pas de regarder une nouvelle fois Top Gun. À mon avis, c'est pas le meilleur exemple. Vous irez voir sa filmo et vous vous ferez votre propre idée, on va dire. La série a été écrite en 93, en fait, par John McNamara et David Greenwald. Alors, John McNamara, avant, il avait fait Brissico Conti Jr. et Lois et Clark. Ensuite, il a fait Fastlane, ce gars-là. Et David Greenwald, il avait travaillé sur Dr. Dougie, un autre genre, on va dire. Et après ça, il a travaillé sur X-Files, Buffy et Angel. Donc, bon, c'est quand même des auteurs qui ont bossé avec des gens intéressants.
Mais c'est vraiment quelque chose d'atypique dans leur sériographie, on va dire.
Et c'est même atypique dans la sériographie du producteur qui est Stephen G. Cannell, qui nous a quand même habitués à d'autres choses.
Un peu plus léger.
L'agence touriste et ce genre de choses-là. Ça se rapproche quand même assez fort d'un flic dans la mafia qu'il avait aussi produit. Mais c'est vrai que ça a fait un peu tâche comme ça. Donc elle a été écrite en 93, mais il aura donc fallu 3 ans pour la placer dans une chaîne de télévision parce que tout le monde disait non, en clair.
On peut comprendre aussi.
On peut comprendre. En fait, ils expliquent avec assez d'humour que généralement on les foutait à la porte, et c'était le cas notamment sur CBS. On les foutait à la porte quand le producteur ou le programmateur lisait la ligne « Il embrasse sa mère », un truc du genre. Donc voilà. Est-ce que c'était une série en avance sur son temps? Parce qu'elle a été arrêtée après seulement 8 épisodes. C'est vrai qu'on est face à un anti-héros, la manière de filmer le sexe. Pour la première fois à la télévision, on a des rapports lesbiens. Donc c'est une série qui était choquante, et c'est surtout de l'inceste d'ailleurs qui choque. Ce moment où, même moi, hein, j'avoue avoir levé les sourcils, il embrasse une blonde plantureuse et puis il appelle maman. Enfin, même moi, je me suis dit, oula. Et comme tu disais en entrée de dossier, c'est à ce moment-là que l'audience a chuté. C'est à ce moment-là, clairement, que les gens ont éteint leur téléviseur ou ont zappé.
Et ce n'est même pas le fait de l'inceste qui choque, c'est le fait de l'inceste assumé.
Voilà, c'est ça. Et la manière dont on le montre aussi. Enfin, je veux dire, il l'embrasse et puis il appelle maman. Il y a quelque chose effectivement d'assez heurtant dans cette scène. Est-ce qu'aujourd'hui, The Shield ou Les Sopranos vont plus loin? J'en suis pas certaine, en fait. C'est vrai que Vic Mackey est super violent. C'est vrai que Tony Soprano est plutôt sanglant, mais ils ont quand même un côté humain. Vic Mackey, il protège les enfants et il protège son quartier. Tony Soprano, c'est un être tellement humain qu'il va voir un psy. Donc ils ont quelque chose quand même d'humain.
Et puis Tony Soprano embrasse beaucoup de femmes, mais j'ai jamais envie d'embrasser sa mère.
Donc,
en même temps, je le comprends.
Elle est moins plantureuse que Bobby. Mais Jim, lui, n'a aucun côté sympathique. Et c'est vrai, bon, ok, il a grandi dans une boîte en carton, on pourrait s'en servir pour l'humaniser, mais c'est pas du tout le cas. Ça ne le rend pas plus humain pour autant. Et en plus, on ne quitte jamais son point de vue, puisqu'il s'adresse face caméra à la première et à la dernière phrase de l'épisode, mais entre les deux, on a sa voix qui guide le téléspectateur, c'est son point de vue, en fait. À ce niveau-là, Profi va plus loin que The Shield et Soprano, parce que c'est un anti-héros total que rien ne nuance, alors que dans The Shield et dans des Sopranos, il y a des nuances. Est-ce qu'une série pareille aurait plus de chance aujourd'hui? Probablement, puisque HBO, Showtime ou FX laissent du temps à leur série. C'est la marque d'ailleurs HBO.
On aurait au moins une saison complète,
voilà,
en tout cas.
On n'arrête pas une série en cours de saison. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça aurait été une bonne chose pour Profi, en fait. Parce que la série reste forte justement parce que Jim n'évolue pas. Mais je ne suis pas sûre que ça soit possible de garder un personnage pareil sur toute une saison, et a fortiori sur plusieurs saisons. Le meilleur exemple de ça, c'est le dernier épisode, en fait, le 8e, où ils disent qu'en fait, ils savaient que cette série allait être arrêtée, donc ils l'ont écrit probablement en connaissance de cause. Et pour la première fois, tout le thème de l'épisode tourne autour de la famille. Il est introduit réellement dans cette famille Cragen, puisqu'il est invité chez l'un des responsables pour manger, où sa mère aussi est introduite. J'expliquerai pas plus, je pense qu'on comprend déjà bien avec cette formule. Et pour la première fois, on a un baiser entre deux personnages, dont Jim et quelqu'un d'autre, j'irai pas quoi, comme ça vous avez un minimum de suspense. Pour la première fois, on a l'impression que c'est un baiser qui est partagé et pas un baiser calculé. Et donc, il y a une évolution de Jim Profi, puisque jusque-là, ce mec était incapable de s'ouvrir d'une quelque manière que ce soit. Donc, ça prouve bien qu'en fait, on ne peut pas garder un personnage aussi monolithique trop longtemps.
Et puis, de toute façon, il arrive quasiment à la tête de Grayson et Grayson. Vers où est-ce qu'on aurait pu aller par la suite?
Voilà.
Viser les États-Unis, la présidence et tout ça, je vois vraiment pas.
C'était en effet une des idées. Une des idées, c'était de faire de la politique à un des frères Cragen et que lui soit toujours dans l'ombre, parce que c'est ce qu'il aime. Maintenant, je pense qu'on peut pas garder un personnage pareil sur des années, donc heureusement que cette série s'est arrêtée. Parce qu'au moins, ils ont pas dû faire de compromis grâce à ça. Un extrait qui est très intéressant, qui est le début du dernier épisode. Et donc, je vous rappelle, ça débute toujours sur une phrase dite en face caméra par Jim Profi, et qui donne en fait sa vision de la famille, et vous allez voir que tout de suite après, il est directement en lien avec ses patrons, et que même dans son travail, ce qu'il essaye de faire finalement, c'est de préserver la famille, même s'il lui fait des coups bas aussi.
Thank you.
famille, c'est la base de tout. On ne peut pas dire que j'ai été élevé de façon traditionnelle, mais ça m'aura au moins permis de prendre conscience que les gens ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Prenez Pete et Charles Grayson. Ils sont riches, puissants, mais malheureux.
J'ai fait ce que tu as dit, j'ai soutenu le dollar de Singapour.
Avec des devises chinoises.
C'était une très bonne affaire.
Bien sûr que oui, parce que ce n'est pas reconnu sur le marché international. Tiens, voilà mes billets, va les mettre au feu.
Vous avez de la famille, Jim ?
Non, je suis orphelin.
Vous avez beaucoup de chance.
Il faut des années de dévouement et de travail acharné pour bâtir un grand empire familial comme Grayson et Grayson. Pourtant, il peut voler en éclats en quelques instants.
Mon propre frère, je peux pas croire ça.
Pete a monté une opération de rachat hostile de Grayson et Grayson. Il veut s'asseoir dans le fauteuil directorial, et pour cela il a passé une alliance secrète avec Arthur MacLean, directeur général de MacLean Limited.
Et MacLean est dans le coup. Ce petit salopard bouffeur de fruits et de produits biologiques. Je vais tuer Pete.
Ça n'arrêterait pas l'opération de rachat.
Et qu'est-ce qui l'arrêtera?
À mon avis, pour préserver cette société et protéger votre position actuelle, vous devez lui pardonner.
Lui pardonner? Mais je veux lui couper la tête et en faire du pâté.
Vous êtes son grand frère, Chaz. Et malgré tout cela, il a encore du respect pour vous.
Et alors?
Servez-vous-en. Il faut que vous le rameniez dans votre giron. Impliquez-le dans l'ensemble des décisions qui déterminent l'avenir de cette société. Et faites en sorte qu'il ne rentre pas chez lui avant 9h30 ce soir.
Faut faire attention, Jim est donc le héros anti-héros. C'est pas pour ça qu'autour de lui, on a des oies blanches. Hein. S'il évolue aussi vite dans la société, c'est peut-être aussi parce qu'il connaît les règles et que tout le monde est un peu pourri quelque part. Alors la société flirte avec le milieu, et d'ailleurs tiens c'est très drôle parce que il s'associe avec un mafioso qui blanchit l'argent via une société de déchets. Ça fait très soprano ça, je sais pas si c'est inspiré d'un fait réel ou quoi, mais en tout cas c'est très drôle. La société vend aussi des missiles à la Chine via une succursale, elle lance des OPA hostiles, des fusions douteuses, enfin, on a droit à tout au niveau financier. La famille Grayson aussi n'a rien à envier au A-Wing. Adultère, alcoolisme, mensonges, coups bas, c'est le quotidien des gens de cette famille. Donc finalement, Jim ne dénote pas tant que ça. C'est juste le meilleur d'entre eux, on va dire.
C'est un psychopathe qui évolue dans un monde de salauds, finalement.
Ouais, tout à fait. Et finalement, la seule qui semble un peu honnête, c'est Joanne. Mais je pense que si la série avait continué, on aurait vu qu'elle avait elle aussi un passé un peu
difficile. Un côté sombre de sa force.
Ouais. Et donc c'est la seule opposante aussi à Jim. C'est assez drôle parce que finalement le monde de l'entreprise est très moche et ça donne une espèce de critique aussi de la société capitaliste ou de la société américaine, puisque à la fin du premier épisode il dit: si on travaille dur on sera tous récompensés, ce qui est le béaba du rêve américain, finalement travaille et tu réussiras. Et donc Jim Profit, c'est le produit de la société américaine et du rêve américain, une société qui produit donc des psychopathes, si on suit ce que la série nous raconte. Faut savoir aussi qu'il est le premier à pouvoir pervertir les systèmes, évidemment. C'est très intéressant de lire dans l'édition DVD les commentaires qu'en ont fait la presse. Entertainment Weekly a dit par exemple que c'est le plus grand message anti-télé jamais glissé dans ce média. Le New York Times m'a dit que c'était de la télé pour les gens qui haïssaient la télé. Alors dans un autre genre, Libération a dit que Jim était le sosie ténébreux et psychopathe de Jean-Luc Delarue. Je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à Jean-Luc Delarue. Mais donc ça montre bien que les magazines se sont bien souvenus qu'il avait été élevé avec la télévision, dans une caisse de carton donc. Et que donc la télévision est censée produire des choses pas très sympathiques. Personnellement, moi je trouve que cette série est plutôt un hommage à la télévision. À une bonne télévision qui produit des chefs-d'œuvre, des fictions qui sont décalées, qui sont provocantes et qui font aussi qu'on se pose des questions. Donc personnellement, je trouve que c'est plus un hommage qu'autre chose. Maintenant, pour aller dans leur sens, c'est vrai que la série démontre que si on est seul face à la télévision, probablement qu'on va mal évoluer. Mais donc finalement, ça ne fait jamais qu'affirmer la nécessité d'avoir une éducation à la télévision et donc d'avoir des parents à côté de soi quand on regarde la télé. Et finalement, c'est un peu aussi ce que fait Jim Profi, c'est affirmer la nécessité d'avoir des parents et une famille, parce que quand on regarde toute cette série, finalement, ce qu'il essaye de faire, c'est de s'insérer dans cette société familiale et dans cette famille. Il le fait d'une manière qui est la sienne, mais en tout cas, il s'insère dans ce système. C'est très intéressant de voir que le 8e épisode est tout entier centré sur ce thème de la famille, et termine aussi là-dessus, sur l'entrée de Jim dans cette famille.
Alors que c'était pas le thème principal, en tout cas, c'était pas celui qui nous sautait aux yeux quand on voyait les autres épisodes.
Non du tout, et puis en plus, pour une série choquante, c'est assez bizarre qu'en définitive, ce qu'on retient d'elle, c'est que c'est une affirmation de l'importance de la famille. C'est pas si choquant que ça. Finalement, on en revient au sacro-saint thème habituel de la télévision américaine qui est « Vive la famille » et si on est en famille, tout ira bien. On ne peut plus traditionnel comme thème, finalement.
Ça voudrait dire que tu fais un rapprochement entre Profit et la fête à la maison, là, quand même.
Je dirais pas jusque-là. Dis-moi que les jumelles n'étaient pas dans Profit.
Non.
J'irais pas jusque-là.
Elles sont partout, mais pas là.
Mais en tout cas, on voit que quand on creuse, finalement, l'idéologie qui est parfois sous-jacente dans les séries télé, on se retrouve face, même dans une série provocante, à la réaffirmation de certaines valeurs. Et donc, c'est très intéressant de voir ça. Bon, c'est vrai qu'il faut creuser un petit temps quand même pour trouver des valeurs en dessous de Jim Profi, mais bon, soit.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.